Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous partons vers le Nigeria, première puissance économique africaine, où le président Muhammadu Buhari fêtera dans quelques semaines, le premier anniversaire de son retour au pouvoir. Je dis retour au pouvoir parce que le général Buhari avait déjà dirigé ce grand pays pendant 2 ans, après le coup d'état militaire de décembre 83. Aujourd'hui, paré des habits de la démocratie, il s'est engagé à lutter contre la corruption, à diversifier l'économie et à anéantir Boko Haram. Près de 12 mois plus tard, la lutte contre la corruption est-elle véritablement engagée? La baisse des cours du pétrole aide-t-elle à diversifier l'économie? Et les niveaux de pauvreté sont-ils sur le reculoir? Telles sont quelques-unes des questions que je poserai aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Charles Meva.
Bonjour.
Charles Meva, vous êtes vice-président Afrique du groupe Gemalto. Sur son site internet, votre société se présente comme le leader mondial de la sécurité numérique. Plus simplement, on vous connaît comme un gros producteur de cartes à puces. Le Nigeria, c'est un gros marché pour votre entreprise ?
C'est un marché extrêmement important pour nous, aujourd'hui et demain. Nous y sommes présents depuis une quinzaine d'années. Dans nos différents secteurs d'activité, notamment les télécommunications avec les cartes SIM et les services aux opérateurs de télécom, mais également dans le domaine bancaire où nous fournissons aux banques, principales banques nigérianes, des cartes bancaires et des services financiers, mais aussi avec les institutions gouvernementales pour la sécurisation de l'identité. Donc le Nigeria, oui, gros marché pour nous. Nous faisons au Nigeria un peu plus de 30 millions de dollars chaque année.
C'est pas énorme quand même?
Dans notre secteur d'activité, c'est assez important hein, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde.
C'est et donc vous êtes souvent au Nigeria?
Je suis assez souvent au Nigeria, mes équipes également, mes collègues aussi. Donc nous y sommes présents à la fois nous-mêmes physiquement, mais également à travers des partenaires, hein, des partenaires locaux pour ces différents métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, dont télécommunications, banques et services gouvernementaux.
Avec nous également dans ce studio, Laurent Bigot, bonjour.
Bonjour.
Laurent Bigot, vous avez démarré votre parcours professionnel au sein de la diplomatie française, où vous avez assumé des positions critiques sur la situation au Mali et au Burkina Faso, qui ont amené votre départ du Quai d'Orsay. Vous êtes maintenant à la tête d'une société de consultants qui s'appelle Gaskia. Cela veut dire quoi, Gaskia ?
Gaskia, ça veut dire vérité en Hausa, qui est la principale langue du Nigeria, justement.
Donc cela veut dire que le Nigeria, c'est un pays que vous sentez, que vous connaissez bien, dont vous parlez les langues?
Alors je parle effectivement le Hausa, qui est la principale langue du pays. J'y ai passé 10 ans de ma jeunesse au Nigeria, et puis professionnellement, quand j'étais au Quai d'Orsay, ça faisait partie de mon escarcelle.
Et quand on est enfant au Nigeria, qu'on est adulte, on garde un bon souvenir de ces années-là?
Oui, moi j'ai un amour immodéré pour ce pays, qui est fascinant, parfois effrayant, mais voilà, j'ai des liens très affectifs avec ce pays.
Alors on verra ça au cours de cette émission, au cours de laquelle nous allons diffuser de nombreux reportages sur la situation économique du Nigeria, avec notre correspondant sur place, Moïse Gomis, qui nous parlera dans la deuxième partie de l'émission des retombées de l'affaire des Panama Papers. Et nous retrouverons également notre envoyé spécial, Binta Diagne, à Kano, dans le nord du pays. Laurent Bigot, est-ce que le Nigeria va mieux aujourd'hui qu'il y a un an quand Muhammadu Buhari a succédé à Goodluck Jonathan ?
D'un point de vue politique, incontestablement.
Et d'un point de vue économique ?
Et d'un point de vue économique, c'est vraiment un pays qui est à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il est en train de faire sa mue, de quitter un système économique qui n'était vraiment pas du tout vertueux. Je ne dis pas qu'il le soit aujourd'hui, mais je pense que sous l'impulsion de Muhammadu Buhari, mais surtout aussi sous l'impulsion de la société civile et des jeunes générations, je crois que les jeunes Nigérians ont envie que le modèle économique nigérian se transforme.
Et vous le définiriez comment, ce modèle économique du passé, ou qui est en voie de transformation?
À l'image de la façon dont le Nigeria s'est construit post-indépendance, violent, beaucoup de corruption, les acteurs économiques ont profité de leur proximité avec le pouvoir pour émergé, ce ne sont pas des entrepreneurs au sens classique du terme, ce sont d'abord des gens qui ont profité de la proximité avec le pouvoir. Dangote en est un très bon exemple. Il a construit sa fortune comme ça d'abord. Mais aujourd'hui, il y a une jeune génération d'entrepreneurs nigérians qui veulent que ce soit l'entrepreneuriat qui soit la vertu du système et non pas la proximité avec le pouvoir politique.
Charles Meva, je vous pose la même question. En un an, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan économique au Nigeria ?
Sur le plan économique, pas tant que ça, parce que effectivement, la priorité, notamment des nouvelles autorités, ça a d'abord été la lutte contre Boko Haram. Je pense que c'est d'abord dans ce secteur-là qu'on va mesurer les effets de la transition. Le plan économique a été beaucoup plus impacté par la chute du cours du pétrole, la baisse du dollar, mais aussi effectivement par l'insécurité au nord-est du Nigeria liée à l'activité de Boko Haram.
Alors on va parler de ça tout au long de l'émission. Le pays a connu 10 ans de croissance économique très forte, des chiffres presque chinois, à 7% de hausse du PIB par an grâce à des prix du pétrole très élevés. Est-ce que cette décennie en particulier a permis au Nigeria d'avancer ces 7% année après année, 8%? Laurent Bigot, est-ce que le pays a engrangé des résultats du positif ou est-ce que cet argent, eh bien, il s'est un peu dilapidé?
Alors, il faut être prudent avec les statistiques parce que vous savez que le Nigeria a multiplié par 2 son PIB en 2014 en rectifiant statistiquement. Donc ça voulait dire que les statistiques précédentes étaient très peu fiables puisque l'année de référence était 1990. Donc restons très prudents avec les statistiques, y compris la croissance. Il y a une réalité au Nigeria qui est incontournable, c'est que le Nigeria a de plus en plus de pauvres numériquement parlant.
On parlera ça dans la deuxième émission. Et ça, dans la deuxième partie de l'émission.
C'est-à-dire que cette croissance ne génère pas le développement et la réduction de la pauvreté qu'on pourrait espérer. Et la croissance du Nigeria est essentiellement tiré par le pétrole. Et la baisse des investissements étrangers depuis quelques années l'atteste, c'est-à-dire que les investissements directs étrangers baissent au fur et à mesure que le cours du pétrole baisse. C'est-à-dire que les autres secteurs d'activité n'ont pas encore pris le relais de la croissance nigériane. Donc cet argent n'a pas été complètement profitable au Nigeria et surtout la transformation du Nigeria n'a pas encore eu lieu.
Charles Meva, vous partagez le même avis ?
Oui, je pense qu'on peut partager cet avis. Il y a eu beaucoup d'attrait de l'économie nigériane auprès des jeunes, notamment des jeunes de la diaspora qui se sont mis à rentrer massivement au Nigeria pour participer au boom de l'économie.
Récemment.
Il y a déjà 5-6 ans, hein, il y avait déjà un retour qui avait été constaté. Là, il y a eu un ralentissement assez net quand même de l'économie cette année, même si effectivement les chiffres et les statistiques, il faut être prudent avec ça. On est parti de 6-7% jusqu'en 2014 à 3% en 2015. Donc il y a eu quand même un ralentissement assez faible, assez important de l'économie nigériane cette année. Et cet engouement-là qu'on a senti dans les années 2010-2014 tend un petit peu à se ralentir, mais surtout dans la partie nord liée au problème d'insécurité. Quant à Lagos et les villes environnantes, on constate toujours beaucoup de dynamisme, hein, beaucoup d'optimisme vis-à-vis de l'économie nigériane, mais l'activité a quand même baissé sensiblement.
Je disais en introduisant l'émission que le Nigeria était maintenant réputé être la première puissance économique du continent devant l'Afrique du Sud. Laurent Bigot mettait en doute les statistiques nigérianes il y a quelques secondes. Est-ce que vous pensez que ces statistiques peuvent remettre en cause cette place du Nigeria première puissance économique du continent?
Peut-être, mais je pense que la population, le dynamisme de la jeunesse nigériane, les difficultés que rencontrent l'Afrique du Sud ou l'Égypte, cette place de première économie africaine du Nigeria va rester et va probablement s'accentuer d'ailleurs parce que c'est un pays qui a du potentiel, il ne demande qu'à être exploité.
Laurent Bigot ?
Oui, effectivement, en fait, la tendance du Nigeria, elle est à l'inverse de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était plutôt un pays qui était sur la pente descendante, ce qui n'est pas du tout le cas du Nigeria. Mais effectivement, restons prudents avec les statistiques, mais c'est incontestable. Avec plus de 170 millions d'habitants, le Nigeria est la première puissance continentale.
On est sûr de ce chiffre, 170 Alors, millions d'habitants ?
C'est comme les statistiques du PIB. Vous savez que les états civils en Afrique en règle générale sont très peu fiables. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux politiques derrière. Il y a l'établissement des listes électorales. Je ne sais pas si c'est 170, 150 ou 200, mais c'est l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que c'est le pays le plus peuplé en Afrique et la tendance, on la connaît démographique, c'est que 70% de la population a moins de 35 ans, donc ça va continuer à croître.
Alors, le premier problème qui saute aux yeux quand on regarde les chiffres de l'économie nigériane, et vous l'avez déjà souligné tous les deux, c'est cette dépendance au pétrole. Les cours du pétrole ont massivement baissé depuis 2 ans. Comment le pays réagit-il face à cette baisse, Laurent Bigot ?
Alors déjà, ça provoque une grosse difficulté, c'est-à-dire que les marges de manœuvre du gouvernement nigérian sont sacrément rognées à un moment où ils ont besoin de cet argent-là. Donc la chute des ressources fiscales est dramatique pour les politiques publiques. Et puis surtout, quand vous regardez une nouvelle fois, regardez les investissements directs étrangers, depuis 3 ans, ils ont été divisés par 2. Divisés par 2. Ils étaient à plus de 7 milliards il y a 3 ans. Ils sont aujourd'hui à 3 milliards et quelques de dollars. Donc on voit bien que cette dépendance totale au secteur pétrolier impacte terriblement le pays, et le pays fait le yo-yo en même temps que les cours du pétrole, et ça a un impact direct sur le Nigeria. Et aujourd'hui, le Nigeria n'arrive pas à gérer cette dépendance.
Charles Mevaha, cela veut dire que les seuls investissements qui avaient lieu ces derniers temps au Nigeria, c'était des investissements pétroliers ?
Non, pas du tout. Simplement, ce qu'on dit là, c'est que l'État reste quand même le principal investisseur. Or, plus de 70% des recettes fiscales sont issues du pétrole. Lorsqu'il y a une chute dramatique des cours du pétrole, comme on le voit aujourd'hui, forcément, ça impacte de manière sensible ces investissements-là. Maintenant, l'économie nigériane ne dépend pas que du pétrole. Il n'y a pas que l'État qui investit au Nigeria. Le secteur public s'est développé fortement aujourd'hui. Le secteur privé s'est développé fortement aujourd'hui. Et quand on regarde le PIB, il est principalement sur les services. Hein. C'est plus de 50%.
Mais le président Buhari a décidé de cumuler ses fonctions avec celles de ministre des Affaires pétrolières. Est-ce que ça correspond à une volonté de politique économique, selon vous ? Comment l'expliquer ?
C'est une volonté d'assainir le système. De lutter fortement contre la corruption, parce que la corruption est quand même un mal endémique au Nigeria, et la corruption liée au secteur pétrolier en est un. Donc c'était important aux yeux du président Buhari de prendre lui-même en charge et de le montrer. Aux populations nigériennes.
Laurent Bigot, en général, quelle est l'ampleur des pouvoirs économiques du président du Nigeria, de cette institution-là ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un grand poids sur les affaires économiques du pays ?
Il l'a, oui, parce que il contrôle la manne pétrolière, bien évidemment, même si c'est un État fédéral et que les gouverneurs de chacun des États ont beaucoup de pouvoir, le président a des pouvoirs importants. Je crois que la volonté de Buhari, elle est très claire quand il cumule avec la fonction de ministre des Affaires pétrolières, c'est de nettoyer le système. Je vous rappelle que le gouverneur de la Banque centrale, Sanusi Lamido, avait été renvoyé de ses fonctions pour avoir dénoncé des disparitions de ressources fiscales liées au pétrole. Il avait donné des montants qui faisaient tourner la tête, c'est-à-dire que sur un exercice budgétaire, c'était 20 milliards de dollars. J'ai dit bien 20 milliards de dollars. Et ce que personne n'a noté, c'est qu'une fois qu'il a été renvoyé, l'explication de Goodluck Jonathan a été de dire...
L'ancien président,
c'était de dire... Non, je ne conteste pas qu'il y a eu des détournements, mais c'est pas 20 milliards, ce n'est que 10 milliards de dollars, et nous l'avons renvoyé parce qu'il n'a pas été précis dans les chiffres. Et il avait envoyé en fait un rapport de plus de 300 pages aux parlementaires nigérians, décrivant toutes les malversations qu'il y avait eu dans le secteur. Donc je crois que la volonté de Buhari, elle est très claire, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent avec le pétrole, mais il veut mettre un terme à l'évaporation.
Alors, l'un des corollaires de la perte de revenus pétroliers... causée par la baisse du prix du pétrole, c'est la baisse du Naira, la monnaie nigériane. À Kano, dans le nord du pays, cette dévaluation larvée a un impact très important. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Binta Diagne.
Hassan vend du wax, du lin et des basins. Depuis la fermeture des industries locales de textiles à Kano, ce commerçant s'approvisionne essentiellement en Chine. Seulement, Hassan travaille à perte à cause de la dépréciation du Naira, la monnaie nationale.
Avant, le dollar s'échangeait à 160 Naira. Maintenant, sur le marché noir, il se vend à 320 Naira. Ça a doublé. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter. Les vendeurs se rabattent sur les textiles de basse qualité, à base de polyester. On vend de moins en moins. Parfois, on ouvre la boutique et on reste toute une journée sans faire une seule vente. Et regardez, on a beaucoup de tissus en stock. And we have a
big stock. En début d'année, le taux d'inflation du Naira avait atteint les 10%. Cela affecte essentiellement les commerçants ou les entrepreneurs qui dépendent des importations. Isé Onyekpere, le directeur du Centre pour la justice sociale, plaide pour plus de flexibilité de la part du gouvernement.
Le gouvernement devrait faire preuve de flexibilité au regard de la situation économique plutôt que de rester figé sur une position à dire qu'il ne va pas dévaluer la monnaie. Par ailleurs, il revient à la Banque centrale du Nigeria de juger s'il est opportun ou non de prendre une telle décision et de formuler une politique monétaire pour le pays. Donc, l'indépendance de la Banque centrale est réduite par toute cette déclaration du président.
Critiqué pour son immobilisme, le gouvernement écarte l'idée de dévaluer la monnaie nationale et préfère appliquer une forme de protectionnisme. Femi Adesina, l'un des conseillers du président Mohamedou Buhari.
Si la situation change, c'est-à-dire si le pétrole connaît un rebond sur les marchés ou si nous parvenons à accroître nos exportations agricoles et de produits minéraliers, tous ces problèmes vont disparaître. Ce n'est donc qu'une question de temps et ce moment arrivera lorsque le Nigeria sera en mesure de diversifier son économie et pourra tirer des bénéfices de cette manne. Mais on dévalue sa monnaie nationale uniquement lorsqu'on exporte et que l'on veut compétir sur les marchés internationaux. Mais qu'exportons-nous à part le pétrole? Il n'y a pas de raison de dévaluer notre monnaie.
Le gouvernement veut donc encourager le développement du secteur agricole et les filières locales. Il a ainsi dressé une liste d'une quarantaine de produits interdits aux importations.
C'était un reportage signé Binta Diagne à Kano, dans le nord du Nigeria. Est-ce qu'on peut généraliser ce qui est dit là, à savoir que l'économie nigériane souffre beaucoup de la perte de valeur de la monnaie nationale? Est-ce que c'est vrai au-delà de Kano, dans tout le pays, Charles Meva, vous, en tant qu'opérateur économique, est-ce que vous le constatez, que c'est un handicap important?
Oui, c'est un handicap important pour tous ceux qui importent un certain nombre de matières pour qui ont besoin de les transformer sur place. Donc effectivement dans le secteur de haute technologie où on achète à l'extérieur un certain nombre d'éléments pour en faire une partie de la transformation localement, oui, il y a un impact sensible sur les sociétés locales.
Laurent Bigot, le Nigeria, on le sait, ne raffine pas, il importe des produits pétroliers raffinés, là aussi c'est un handicap.
C'est un handicap, ça dépend pour qui. Pour l'économie nigériane, oui. Pour tous ceux qui sont dans le commerce du pétrole, c'est pas du tout un handicap. Et c'est d'ailleurs le drame du Nigeria, c'est que le lobby de ceux qui gagnent beaucoup d'argent en important des produits raffinés fait que le Nigeria ne s'est pas doté de ses capacités de raffinage dont il aurait dû se doter. Donc la chute du cours de la monnaie, ça impacte l'économie nigériane en général, mais les lobbies qui gagnent beaucoup d'argent avec l'importation de produits, eux, continuent à gagner beaucoup d'argent.
Et vous croyez que c'est une des raisons qui explique que le gouvernement milite pour maintenir le Naira à sa parité actuelle contre le dollar et les autres monnaies internationales?
Je pense que le gouvernement fait face à de nombreux défis aujourd'hui et que une dévaluation politiquement parlant serait difficile à expliquer à la population nigériane. Buhari a hérité d'un pays qui est dans une mauvaise situation économique et politique. Une dévaluation politiquement, c'est difficile à faire passer.
Parce que ça fait monter les prix des produits importés?
Non, et puis c'est toujours perçu comme un acte de faiblesse. Pour moi, c'est la conséquence, c'est politique. C'est expliquer à sa population qu'on dévalue la monnaie nationale. Quand vous connaissez la fierté des Nigérians par rapport à l'économie de leur pays et la force de leur pays, que leur président dise, bah écoutez, on est faible et il va falloir dévaluer, politiquement, c'est très difficile à faire passer.
Charles Meva?
En plus, il faudrait justifier pourquoi est-ce qu'on dévalue. En général, on dévalue pour rendre plus compétitive son économie parce qu'on exporte plus. Le Nigeria exporte très peu. Donc effectivement, il y a cet affichage politique qui est important aux yeux du président Buhari. Mais au-delà de cet affichage politique, il y a une raison économique. C'est pourquoi dévaluer alors qu'on exporte finalement très peu.
Mais il y a quand même quelque chose de très surprenant dans le reportage de Binta Diagne qu'on a écouté tout à l'heure. C'est ce conseiller du président qui dit on attend un retour de fortune, que les prix du pétrole remontent. Est-ce que c'est pas un attentisme inquiétant, Laurent Bigot?
Je ne sais pas s'il est inquiétant, cet attentisme. Je pense qu'ils essaient de trouver des explications et des justifications au fait qu'ils ne veuillent pas dévaluer. Je crois que c'est surtout ça la réponse. Au-delà de ça. Et c'est vrai aussi que le Nigeria ne s'est jamais illustré par des politiques économiques très prospectives.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu sur cette rente pétrolière. C'est une manne qui tombait sans faire d'efforts et ils n'ont jamais travaillé cette capacité des institutions nigérianes à développer une politique économique sur le long terme, fondée sur de la prospective. Et aujourd'hui, on ne se dote pas du jour au lendemain de ces capacités-là. Et je pense que le Nigeria souffre d'un déficit en la matière.
Nous arriverons au terme de la première partie de cette émission. Nous interrompons quelques minutes pour un rendez-vous avec l'actualité immédiate, l'actualité chaude. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. International. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la situation économique du Nigeria, première puissance économique africaine. Presque un an après le passage de relais entre Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari, nous faisons le point sur les engagements de l'ex-candidat Buhari, aujourd'hui président. Il avait promis de chercher à diversifier l'économie nigériane trop liée à la production pétrolière, de lutter contre la corruption. Deux invités à ce micro, l'ancien diplomate, aujourd'hui consultant, Laurent Bigot, et le vice-président Afrique du groupe Gemalto, Charles Meva. Au cours de la première partie de l'émission, nous avons vu que le Nigeria souffrait de la baisse des cours du pétrole. Conséquence, une diversification de l'économie nigériane est nécessaire. C'est un des objectifs du président Buhari. Est-ce que vous partagez cette stratégie, vous partagez cette avis, Charles Meva, sur la nécessité absolue d'une diversification de l'économie nigériane?
Oui, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'économie nigériane aujourd'hui, dans ce qu'on regarde la façon dont elle est structurée, les recettes fiscales proviennent principalement à plus de 70% des recettes pétrolières. Donc, il y a une nécessité effectivement d'une diversification de l'économie nigériane, à la fois vers le secteur agricole, mais également vers le secteur des services.
Mais vous disiez vous-même tout à l'heure que les services, c'était la moitié du produit intérieur brut. Alors, il y a une espèce de contradiction. Là, on nous dit le pétrole, c'est 70% des exportations, mais le PIB est à moitié constitué de services. Il y a un hiatus.
Il y a tout ce qui est recettes fiscales extraite des produits que de l'activité économique, mais il y a l'activité en elle-même et ce qu'elle produit. Aujourd'hui, on le voit, une grosse partie de l'activité nigériane est aujourd'hui dans le domaine des services, mais avec beaucoup quand même d'informels. Or, le secteur formel, dans le secteur formel, il y a toute la partie pétrole qui est quantifiable, qui apporte des recettes. Donc, dans les chantiers du gouvernement, il n'y a pas simplement la diversification de l'activité vers le secteur agricole, vers le secteur des services, vers la construction, les travaux publics, etc. Mais il y a également aussi sortir du secteur informel tout ce qu'il est aujourd'hui et qui va permettre d'apporter des recettes fiscales supplémentaires à l'État.
Laurent Bigot, vous pensez ce secteur informel au Nigeria, il est vraiment fondamental? Enfin, c'est l'essentiel de l'activité économique du pays, réel?
Oui, mais de toute façon, l'économie nigériane, elle est déjà diversifiée.
C'est la question que j'allais vous poser ensuite.
La dépendance, c'est effectivement les recettes fiscales du gouvernement fédéral. Parce que l'économie nigériane, à peu près la moitié, c'est effectivement les services. Et dans la constitution du PIB, le secteur pétrolier pèse autant que l'agriculture. Mais c'est la dépendance du gouvernement en termes de recettes fiscales et de devises d'exportation qui est liée au pétrole et qui pose problème. Mais l'économie est déjà diversifiée. L'agriculture a effectivement pas mal augmenté dans la part du PIB. Vous avez un secteur qui n'est pas anecdotique, mais qu'on appelle Nollywood, qui est la production culturelle. C'est quand même le deuxième producteur, le Nigeria, après Hollywood, en matière de films. C'est plus de 2000 films par an.
Alors, c'est plus que Bollywood en Inde.
Exactement. Alors, ça pèse moins de 10% du PIB aujourd'hui, mais ça montre à quel point l'économie nigériane est déjà diversifiée. Mais ils n'ont pas réglé leur problème de dépendance fiscale aux recettes pétrolières.
Mais alors pourquoi est-ce que ce gouvernement, ce président récemment arrivé, comme les précédents d'ailleurs, milite, plaide, défend cette idée de vouloir diversifier? C'est de la politique, c'est de l'affichage?
Non, mais je pense que quand il dit diversifier, c'est-à-dire diversifier notamment les sources de recettes fiscales pour le gouvernement fédéral. L'enjeu, il est là, c'est que les devises, la ressource de devises Nigeria repose exclusivement sur la rente pétrolière. Et ça les rend extrêmement dépendants et c'est une fragilité pour l'économie nigériane.
Il y a une petite phrase du président Buhari que j'ai relevée en préparant cette émission. Il dit « on importe même jusqu'au cure-dents ». C'est une réalité.
C'est pour ça quand on parle effectivement de diversification, elle est effectivement déjà diversifiée. Hein.
Oui, mais elle est diversifiée, elle ne produit pas de cure-dents, donc elle ne produit rien, cette industrie, cette
elle
économie.
Elle ne fabrique pas assez localement. Elle importe quand même encore l'essentiel de ses besoins. Donc il y a une nécessité à la fois dans le secteur énergétique, dans le secteur de biens de consommation, de mettre en place une industrie productive manufacturière au Nigeria. Les besoins en termes de consommation existent, mais c'est une industrie qui est encore fortement dépendante de l'importation, y compris des cure-dents, comme vous dites.
Et des tomates. Parce que le président Buhari citait les tomates et les cure-dents.
Quand vous regardez la part de l'industrie dans le PIB nigérian, c'est moins de 10%. Donc effectivement, quand vous avez 170 millions de personnes, que vous êtes une économie qui importe beaucoup de produits finis, vous vous dites bien que là, il y a un enjeu. Et cet enjeu, il est là, et ça revient une nouvelle fois quand vous importez beaucoup. Si vous dépendez exclusivement d'un seul produit pour ravitailler le pays en devise, ben vous êtes une économie qui est faible, qui est potentiellement faible, et je pense que c'est ça que Buhari veut régler.
Elle est très en retard, cette agriculture. Je parlais des tomates. J'ai vu que le chiffre, c'était 20% du produit intérieur brut, mais est-ce qu'elle arrive à alimenter la population des grandes villes, des campagnes, etc.?
Elle va beaucoup mieux qu'il y a 15 ans, l'agriculture nigériane. Ils avaient complètement abandonné l'agriculture après les deux chocs pétroliers et avait misé exclusivement sur l'industrie pétrolière. Et depuis une dizaine d'années, l'agriculture nigériane a considérablement augmenté tant sa création de valeur que sa production, qui reste malheureusement encore très inférieure aux besoins de la population. Mais quand vous regardez les performances des agricultures des pays de la sous-région, le Nigeria n'a vraiment pas à rougir de ses performances.
Est-ce qu'il a des produits d'exportation phares, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a le cacao, comme...
Non, parce que, mais il y a l'exportation, mais l'ambition des différents, et là, pour le coup, c'était une constante des différents gouvernements passés, ça a été d'abord de réduire la dépendance extérieure, et donc d'augmenter l'autosuffisance alimentaire. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de l'agriculture nigériane, c'est ça. Mais en même temps, ils ont développé des produits d'exportation et ils ont même fait appel à l'expertise de fermiers blancs qui avaient été chassés de leurs terres au Zimbabwe et qui les ont installés dans ce qu'on appelle la Middle Belt, c'est-à-dire là où on peut produire des produits d'exportation.
Alors je vous propose un document sonore. L'an dernier, à cette époque-là de l'année, nous avions reçu Akinwumi Adesina, encore ministre de l'Agriculture du Nigeria, et il était à l'époque surtout en campagne pour la présidence de la Banque africaine de développement, campagne, on le sait, qui fut couronnée de succès. Et sur son propre bilan au ministère nigérian de l'Agriculture, Akinwumi Adesina était très positif. On l'écoute.
Je sors de la pauvreté. Mon père avait travaillé dans les champs avec mon grand-père. Ils ont gagné 100 par jour. Donc moi, quand je suis devenu le ministre, je dis, bon, il faut totalement changer l'agriculture. Il faut créer de l'espoir. C'est ce qu'on avait fait au Nigeria. On a totalement changé le secteur pour devenir un secteur de richesse. Le premier but, en ce qui concerne la pauvreté extrême et la faim, a été atteint au Nigeria. Je viens de recevoir même une lettre de la part de FAO. C'est parce que nous avons produit 21 millions de tonnes de produits agricoles. On avait chuté l'importation de produits alimentaires. Donc, on avait pu créer 3 millions d'emplois dans les secteurs ruraux. Donc, ça, c'est très important.
Il a raison, Charmeva. Ce bilan est aussi positif que ce qu'il disait il y a un an.
Difficile à dire, mais il y a eu une évolution très sensible dans le secteur agricole nigérian. Mais quand on parle de production locale, de nécessité donc de nourrir la population nigériane,
de moins d'importer de riz, par exemple,
de moins d'importer de riz, ça nécessite aussi qu'il y ait des infrastructures qui permettent de monter des usines, des infrastructures à la fois en termes d'énergie, en termes de transport, pour pouvoir faire que cette agriculture-là se développe, serve d'abord, à nourrir les Nigériens, parce que ce qui est visé, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire des Nigériens, mais après, il faut que le Nigeria puisse exporter. Pour que ceci puisse être possible, il faut qu'il y ait effectivement des infrastructures en termes d'énergie et de transport pour accompagner ce développement de l'industrie agricole nigérienne.
Et ça, c'est un travail de longue haleine, Laurent Bigot, les infrastructures ?
Les infrastructures, quand on est dans le domaine de l'électricité au Nigeria, c'est étonnant que le Nigeria arrive à fonctionner avec une si faible production électrique. Quand vous savez qu'en Afrique du Sud, aujourd'hui, avec une population de 50 millions d'habitants, et qu'ils ont des problèmes électriques, ils produisent déjà en Afrique du Sud 100 fois plus d'électricité que le Nigeria, qui a 3 fois plus d'habitants. C'est-à-dire qu'on comprend que le déficit, l'enjeu fondamental pour le Nigeria, c'est de résoudre la question électrique, et ça, Buhari a été très clair là-dessus aussi. Et pourquoi ? Parce que là aussi, il y a un lobby des importateurs de groupes électrogènes qui gagnent énormément d'argent. On préfère aujourd'hui au Nigeria produire de l'électricité à partir de groupes électrogènes, parce que ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui se sont mis sur ce secteur-là, plutôt que de lancer les grands chantiers d'infrastructures pour que l'économie nigériane devienne compétitive avec une électricité à bas coût.
Le Nigérian le plus puissant, c'est probablement Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche aussi d'Afrique. Au Nigeria, il y a 22 milliardaires et 34 000 millionnaires, mais 60% de la population vit avec moins d'un dollar 25 cents par jour. C'est une folle inégalité, Laurent Bigot.
Oui, c'est le drame de l'Afrique en général, du reste. C'est que ce sont des modèles économiques qui sont fondés sur les inégalités et qui accroissent les inégalités. Le Nigeria n'échappe pas du tout à la règle. Je pense que c'est un enjeu majeur pour le gouvernement de Buhari, parce qu'aujourd'hui, l'économie nigériane produit des pauvres. C'est ça la réalité.
Produit des pauvres, Charles Meva, l'économie nigériane ?
Parce qu'elle ne fournit pas suffisamment d'emplois pour les jeunes nigérians qui sont formés à la fois localement et à l'étranger. Aujourd'hui, il y a effectivement un pourcentage relativement faible de gens qui sont extrêmement riches et une grosse partie de la population, et notamment les jeunes, qui sont à la recherche d'emploi alors qu'ils sont souvent extrêmement bien formés.
Et c'est valable dans les villes comme dans les campagnes, Laurent Bigot. La population des campagnes, est-ce qu'elle vit plus facilement ou moins facilement que ses concitoyens des grandes villes nigérianes?
Je ferais plutôt un distinguo entre le nord et le sud. Les inégalités sont plutôt géographiques entre le nord et le sud. Alors bien sûr, il y a des différences entre les populations urbaines et celles rurales, mais la grande pauvreté, elle est dans le nord du pays. Et c'est pour ça que Boko Haram a prospéré, notamment. Les indicateurs sociaux sont assez effarants dans le nord du pays, alors que les richesses se trouvent au sud. C'est sûr que quand vous allez à Lagos ou même Port Harcourt, et ensuite que vous allez à Sokoto, qui est dans le nord du pays, ce ne sont pas du tout les mêmes environnements. Donc le vrai distinguo, il est à faire entre le nord et le sud, et ça a longtemps été un sujet de combat politique des élites nordistes, qui sont quand même responsables de ce fait-là, mais qui accusent les sudistes de garder la richesse pour eux. Et c'est un vrai sujet au Nigeria. La guerre du Biafra reste encore dans tous les esprits au Nigeria.
Dans les années 60.
Exactement, parce que c'est la répartition de la richesse au Nigeria qui, géographiquement, est très déséquilibrée entre le nord et le sud. Et
est-ce que la corruption joue un rôle dans cette répartition inégale des richesses, Charles Meva ?
Oui, elle joue un rôle parce qu'elle assèche souvent les finances de l'État. Et elle empêche donc une juste répartition des ressources pour la population. La corruption est un mal qu'il faut combattre. C'est une des priorités du président Buhari. Effectivement.
Il est crédible, vous pensez ?
Je crois que les deux années qu'il a passées lorsqu'il a pris le pouvoir en 83, il avait démontré durant ce court laps de temps qu'il était capable de lutter efficacement contre la corruption. Donc c'est un de ses chevaux de bataille, effectivement.
Alors quand on a pris de l'argent, surtout malhonnêtement, il faut souvent le mettre à l'abri. Le pays n'est donc pas, le Nigeria, pas épargné par les révélations de ce qu'on appelle les Panama Papers. Au Nigeria, c'est le travail des journalistes du Premium Times qui a permis de révéler les dessous de ce scandale. Des noms d'hommes politiques de premier plan et de grandes fortunes ont été cités. On retrouve le nom du président du Sénat, Bukola Saraki, troisième personnage de l'État, qui vient d'ailleurs d'être jugé pour corruption, et aussi celui qu'on a déjà cité, d'Aliko Dangote, dans cette enquête Éco-Dissier-Éco d'ailleurs, signée Moïse Gomis à Lagos.
Leur point commun, l'utilisation de plusieurs sociétés écrans œuvrant à partir de divers paradis fiscaux. Panama Papers révèle par exemple que les deux derniers présidents du Sénat nigérian possèdent plusieurs comptes offshore, information que Bukola Saraki et son prédécesseur David Mark ont omis de déclarer au moment de leur investiture. L'ancien général Théophilus Danjuma n'a jamais renoncé à ses lucratives activités dans le pétrole, cumulant ainsi avec ses fonctions ministérielles. Son nom apparaît dans des montages financiers sophistiqués menés sur plusieurs années. Le multimilliardaire et roi du ciment Aliko Dangote, lui, est l'un des actionnaires de la société pétrolière Owlas Trading SA, une firme enregistrée en 2003 par Mossack Fonseca aux îles Vierges britanniques. Dirigée par son frère Sayu Dantata, cette même société deviendra PetroWest SA avant de s'établir aux Seychelles. Cette semaine, ici au Nigeria, la majorité de ses personnalités a démenti publiquement ou bien s'est murée dans le silence. Aucune démission spectaculaire, ni confession, ni mea culpa. Panama Papers met la lumière sur les dessous du capitalisme au Nigeria, où comme dans bien d'autres pays, le culte du secret et de la dissimulation semble être un code de conduite partagé, surtout dans un monde des affaires où se côtoient certains politiciens de la majorité de l'opposition, des anciens militaires et des chefs d'entreprise.
C'était Moïse Gomis à Lagos, et c'est Éco d'Issier Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du Nigeria avec Laurent Bigot, PDG du cabinet de consultants Gaskia, et Charles Meva, vice-président Afrique du groupe Gemalto. Charles Meva, vous en pensez quoi de ce scandale des Panama Papers version Lagos?
Je parlerai plutôt des conséquences de la corruption, plutôt que de m'intéresser vraiment spécifiquement au scandale des Panama Papers pour le Nigeria. Les conséquences de la corruption, notamment pour des pays comme le Nigeria, sont extrêmement importantes. C'est un pays qui souffre d'un manque d'infrastructures. Et le fait qu'il y ait effectivement une déperdition des ressources de l'État fait que cet investissement dans les infrastructures ne se fait pas. Le développement ou la sécurisation des personnes avec la lutte contre Boko Haram ne se fait pas efficacement. Un certain nombre de chantiers, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'identité, dans le domaine des infrastructures, à la fois de transport, à la fois d'énergie, mais également agricole, ne se fait pas. Donc, c'est, je dirais que ces travers que l'on a constaté avec les Panama Papers handicapent fortement le Nigeria. Mais ce n'est pas spécifique au Nigeria, hein. C'est un exemple parmi d'autres.
Laurent Bigot, les Panama Papers, c'est un symptôme d'un Nigeria corrompu, mais malgré tout inséré dans l'économie financière mondiale.
Oui, bon, il n'y a pas que le Nigeria qui est concerné, mais sur les noms qui sont cités au Nigeria, Bukola Saraki et Aliko Dangote, ça n'étonne personne. Enfin, je veux dire, ce sont des personnages très sulfureux. Au Nigeria, tout le monde sait comment ces gens-là ont construit leur fortune. Donc, ça peut nous étonner, nous. Et c'est sûr que, notamment par rapport à Aliko Dangote, qu'on présente comme l'icône de
la réussite.
Exactement. Mais il faut, enfin, quand on connaît le personnage et on sait comment il a construit sa fortune, on met beaucoup de bémols à tout ça.
Allez-y.
Il a profité de sa proximité du pouvoir, auprès du pouvoir nigérian. Il faut rappeler que les cimenteries qu'il a achetées, les usines de raffinage de sucre qu'il a achetées, il les a achetées au gouvernement nigérian. C'est pas un industriel qui s'est lancé. Il a d'abord racheté ça au gouvernement nigérian parce qu'il était proche du pouvoir nigérian. Il a pu aussi se faire une fortune parce qu'il avait des licences d'importation sur certains produits et il était en exclusivité sur ces produits-là. Des
monopoles, donc.
Exactement. C'est ça la réalité. Si vous discutez avec les gens de Lafarge, ils vous diront quelles difficultés ils ont.
Le cimentier Lafarge.
Exactement.
Français.
Quelles difficultés ils ont à opérer au Nigeria face à Dangote qui ne recule devant rien pour rendre la concurrence difficile. Donc, c'est pas une surprise. Mais comme je le disais en début d'émission, je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs nigérians qui ne sont pas sur ce modèle-là et qui veulent construire une économie différemment. Probablement qu'aujourd'hui, le Nigeria est en train de frotter entre l'ancien système et la montée des jeunes entrepreneurs qui veulent travailler différemment.
C'est-à-dire différemment ?
Différemment, c'est-à-dire sur la logique d'un entrepreneuriat. C'est vous réussissez parce que vous êtes bon, parce que vous avez fait les bons choix économiques et non pas parce que vous connaissez tel ministre ou tel président du Nigeria.
Alors continuons à parler quelques secondes encore de ce problème de la corruption. Comme on l'évoquait il y a quelques instants, le président Buhari dit vouloir diversifier l'économie. Est-ce que ça n'est pas aussi un moyen de lutter contre la corruption ?
Enfin, je ne sais pas si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf.
Ouais, d'accord.
Je ne sais pas dans quel sens il faut okay. le mettre. Ce qui est sûr, c'est que Buhari l'a montré. Il est capable de lutter contre la corruption. Il le fera. Et probablement que la diversification de l'économie permettra de multiplier les centres de décision économique et donc de réduire la corruption et surtout l'impact que ça a sur le système public. Parce que l'enjeu, il est bien là. C'est que si vous avez quelques milliardaires qui sont très proches du pouvoir, non seulement ils tiennent le système économique, mais ils tiennent le système politique. Et cette collusion-là est dévastatrice pour la compétitivité du Nigeria.
D'accord, Charmeva.
Oui, en plus de ça, effectivement, il y a d'autres mesures qui avaient déjà été prises et qui continuent à être accentuées. C'est notamment la limitation de la circulation du cash, l'argent liquide. L'argent liquide circule énormément au Nigeria et c'est aussi source de
vous
corruption.
Vous voulez dire de grosses sommes, pas seulement de petits billets.
La circulation de l'argent liquide. Et pour une façon de lutter contre ça, c'est d'augmenter le taux de bancarisation de la population, que les gens puissent payer avec des cartes bancaires lorsque c'est possible. Et ça évite également un petit peu, hein, ou en partie, la corruption.
Ça vous permet aussi de faire de bonnes affaires.
Entre autres passages, mais je pense que ça participe aussi de cet assainissement nécessaire de l'économie.
Alors, le Nigeria est aussi, pour l'instant encore en tout cas, victime d'un autre fléau, c'est Boko Haram. Beaucoup de violences, beaucoup d'enlèvements, beaucoup de morts, mais aussi des dégâts économiques importants dans le nord du pays. Des chiffres très récents estiment à 9 milliards de dollars le coût de Boko Haram pour l'économie nigériane depuis 2011. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Binta Diagne à Kano.
Aladji Rigmer est un chef d'entreprise désarmé. Son établissement produit du jus de mangue et surtout du concentré de tomates, mais l'usine est à l'arrêt depuis 5 ans suite à une attaque par des insurgés de Boko Haram.
We own 1,800 hectares.
Mon usine est établie sur un terrain de 1800 hectares. Nous avons dû abandonner l'installation de nos nouvelles machines à cause des insurgés de Boko Haram. C'était en janvier. Notre usine a été attaquée par des insurgés. Ils ont tué 3 employés. Ils se sont emparés de l'un de nos 4x4. Ils sont restés dans l'usine pendant près de 6 heures et ils ont saccagé les bureaux, espérant y trouver de l'argent.
À cause de l'insécurité, Aladji Rigmer a dû faire repartir ses ingénieurs venant d'Europe. l'Europe, mais l'arrivée d'un nouveau gouvernement et les avancées militaires lui ont donné une lueur d'espoir. Les agriculteurs ont aussi repris leurs activités, pensant avoir un débouché grâce à cette usine. Seulement le contexte n'a pas permis la reprise des activités. Aladji Ringmer revient sur les pertes accusées par sa structure.
Nous accusons de grosses pertes en termes de production, de main-d'œuvre. C'est tout un terrain qui perd de sa valeur. À cela s'ajoute l'absence des marchands qui cessent de venir du sud du pays et des pays voisins. Bref, c'est une véritable catastrophe économique.
L'armée a récemment annoncé la réouverture de 4 routes autour de Maïdougouri, mais le contexte est plutôt à la défiance, comme l'explique Nourou Djeinou, qui avait un commerce entre Maïdougouri, Kano et certaines villes du Cameroun.
J'avais un bon business, je faisais travailler 9 personnes. Je m'approvisionnais en matériaux à Kano pour les revendre aux Yoruba. Et une partie était réservée au marché de Maïdougouri. J'avais beaucoup de clients, des gens qui venaient même du Cameroun pour m'acheter mes produits. Mais les insurgés de Boko Haram ont brûlé mon commerce. Et depuis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'argent pour relancer mes activités.
Les autorités tentent de relancer d'autres axes routiers, notamment le corridor vers le Niger. Certains responsables relativisent donc cette situation et parlent de reprise progressive des échanges. Le Nigeria exporte jusqu'à 1 milliard de francs CFA par mois de produits agricoles vers le Niger.
C'était un reportage signé Binta Diagne, envoyé spécial de RFI dans le nord du Nigeria, à Kano. Laurent Bigot, c'est une région que vous connaissez, Kano ?
Oui, alors moi, quand je vivais au Nigeria, je vivais au sud, mais on voyageait pas mal dans le nord. C'est un autre pays. Le nord du Nigeria est vraiment un autre pays quand on connaît le sud. Et aujourd'hui, ce qui s'y passe est dramatique pour cette zone du pays qui est déjà la plus défavorisée. Et ça a un impact social, d'abord, avant tout social, dévastateur et économique ensuite.
Dévastateur, Boko Haram sur le plan économique, Charmeva.
Extrêmement dévastateur. Moi, je suis originaire du Cameroun. C'est le pays frontalier, à l'est du Nigeria. Et au nord du Cameroun, comme au nord du Nigeria, on constate effectivement une extrême chute, une chute brutale de l'activité économique dans cette zone-là. Donc c'est le cas donc du nord du Cameroun, c'est le cas du nord-est du Nigeria, mais c'est le cas aussi du sud-est du Niger. Donc c'est un impact extrêmement fort sur l'activité des populations. Les gens ne peuvent plus circuler librement. Il y avait un commerce interfrontalier extrêmement important. Celui-là, il a complètement disparu aujourd'hui.
Est-ce qu'il existe une espèce de compensation entre le nord et le sud? Est-ce que le sud du Nigeria peut compenser les pertes enregistrées au nord? Est-ce qu'il y a une mutualisation des risques économiques dans ce pays, Laurent Bigot?
Pas vraiment, parce que même si officiellement il y a une redistribution notamment de la manne pétrolière et des revenus liés à la manne pétrolière entre le nord et le sud, une péréquation entre les États. Mais la réalité, c'est que le nord reste la zone la plus pauvre du pays, ne bénéficie pas de la manne pétrolière. Il est vrai aussi que malheureusement les élites nordistes ont profité de leur marge de manœuvre, non pas pour investir, mais pour faire du clientélisme politique.
Qu'est-ce que vous appelez leur marge de manœuvre?
Mais parce que les États fédérés ont des marges de manœuvre. Un gouverneur produit son propre budget, et notamment dans les domaines sociaux. Et quand vous regardez les taux d'investissement des États fédérés du Nord, il est très inférieur à ce qui se fait dans le Sud ou dans le Sud-Est du Nigeria. Donc il y a eu des choix politiques aussi des élites nordistes de maintenir ce Nord du Nigeria dans une forme de sous-développement, parce qu'en termes de clientélisme politique, ça rapporte beaucoup plus.
Ça rapporte à ces élites, ça leur rapporte quoi? L'argent directement du budget fédéral?
C'est-à-dire que d'abord, il y a une bonne partie de l'argent qui reste au sommet. Comme on dit en Afrique, les petits ne voient pas arriver l'argent sur le terrain. Et surtout, quand vous faites du clientélisme politique, vous avez besoin de tenir les populations. Si vous leur donnez les moyens de se développer, de s'instruire et de s'informer, vous avez beaucoup plus de mal à capter ces populations.
Vous partagez ce point de vue, Charles Mévas?
Il faut un investissement beaucoup plus fort. Et je pense que ça fait partie du programme du nouveau président nigérien, à la fois dans le domaine de l'éducation. Il faut que les gens aillent à l'école, il faut qu'ils soient éduqués, qu'ils se prennent en main, qu'il y ait des investissements en termes d'industrie, de manufacturière, en termes de débouchés potentiels pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, un jeune au nord du Nigeria, quel est son avenir? Souvent, c'est de partir des campagnes du nord pour aller grossir les banlieues de grandes villes telles que Kano ou Sokoto, ou alors c'est d'aller dans le sud pour aller grossir les banlieues de Lagos. Donc c'est pas ça l'avenir des populations du nord du Nigeria. Je pense que l'État, le gouvernement actuel en a pris conscience. Il faut un développement, une sorte de plan Marshall pour le nord du Nigeria en réalité.
Vous croyez que c'est possible, que c'est envisageable, Laurent Bigot, ce plan Marshall pour le du sud vers le nord, en fait?
Ça sera long, hein, parce que vraiment, c'est frappant. C'est quand, si vous arrivez à Lagos et ensuite vous prenez l'avion et vous allez à Kano, bon, Kaduna encore ça, mais vous allez à Kano ou à Sokoto, franchement, on n'est plus dans le même pays. On n'est vraiment plus dans le même pays. Donc
passe d'une Afrique plus ou moins développé à une Afrique sous-développée.
Oui, alors déjà, ne serait-ce que vous arrivez dans le Sahel quand vous êtes à Sokoto. Vous êtes dans le Sahel, vous êtes plus dans la forêt luxuriante, vous êtes vraiment dans le Sahel. Donc déjà, l'environnement change, mais surtout les niveaux de développement ne sont sans aucune comparaison. On est vraiment dans l'extrême pauvreté dans le nord du pays. Donc ce sera évidemment très long. C'est aussi pour ça que Boko Haram a du succès dans le nord du pays. Qu'est-ce que propose Boko Haram quand il rentre dans un village? Bon, bien sûr, il massacre une partie de la population, mais pour les jeunes garçons, qu'est-ce qu'il leur propose? Il leur offre une moto, il leur offre l'équivalent de $200. Mais pour ces gens qui n'ont aucun horizon, Boko Haram offre une solution.
Il y a besoin de redonner espoir aux jeunes hein, du nord-est du Nigeria, du nord du Nigeria en général, mais dans beaucoup de pays africains également. Effectivement, il y a besoin de redonner espoir aux jeunes en leur donnant des perspectives d'avenir, parce qu'il y a la possibilité d'avoir un emploi quand on est formé. Même parfois, quand on est formé, il n'y a pas d'emploi. Donc il faut redynamiser l'économie, et ça passe par un investissement fort de l'État et par la lutte contre la corruption, par la lutte contre l'insécurité, etc.
Eh bien, c'est sur ces préconisations de Charles Meva et de Laurent Bigot que se termine cette émission. Merci à vous deux, Charles Meva, Laurent Bigot, d'avoir participé à cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré au Nigeria. L'émission a été réalisée et mise en onde par Victor Ouvrard. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous.